Ma façon de dire les choses, c'est de parler d'usage de la langue ou de pratique langagière, je vais expliquer. La première chose que je fais en général quand je présente tout ça, c'est de dire que le mot langage, je ne l'utilise pas beaucoup, sauf pour parler de ça, c'est-à-dire la capacité générale des êtres humains à échanger à l'aide de signes. Souvent, quand on parle de langage, on parle de langue, mais en fait, si vous regardez les programmes, en tout cas ceux qui s'appelaient Cycle 2, 3, 4, en 2016, je pense. Je ne sais plus. Vous cherchez le mot langage, je crois qu'il y a 273 occurrences, et vous allez voir que ce n'est pas du tout que l'usage de la langue. C'est le langage corporel, le langage cartographique, le langage. Il y a plein. Donc, effectivement, et donc, le mot langage a une foultitude d'acceptions. C'est pour ça que je n'aime pas trop l'utiliser, parce que quand je l'utilise, je ne sais pas trop comment les gens l'entendent, en fait. Donc, cependant. Je commence avec lui. Donc, avec cette idée, le langage est constitutif de la pensée. Donc, ça, c'est une première idée importante. C'est on n'utilise pas un langage sans pensée. Donc, je vais parler du langage verbal plutôt, mais donc c'est ce que dit Rita Carroll juste en dessous. Pensée et parole, elle dit. Constitutif, ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée sans langage, et il n'y a pas de langage sans pensée. Quand on s'exprime, on pense, ce que pour dire la façon de voir les choses inversement, le langage n'est pas un tuyau de quelque chose qui se créerait par ailleurs. D'accord? C'est le quelque chose. Et ce qui est important dans cette chose, c'est que c'est à l'interface entre un processus psychocognitif individuel, interne, on pourrait dire, avec des sens naïfs, et puis un processus social. Alors, oui, donc je peux redire le langage. J'aime bien ces deux phrases parce qu'elles sont bien symétriques. C'est un outil de construction, de négociation et de transformation des représentations sociales. Donc notre façon de percevoir le monde, au sens, tous les sens que vous voulez, très très large, très très inclusif. Vous mettez donc c'est socialement, d'accord? Et puis la même chose, un outil de construction, de négociation et de transformation des représentations individuelles. La langue, de son côté. C'est quelque chose, donc c'est pareil, moi quand je vais dire langue, ça voudra dire ça. J'ai mis réservoir commun, c'est des mots de Robière. J'aime bien le mot réservoir. Relativement stable, c'est-à-dire que tous les ans, pour le dictionnaire comme le Robert, ou tous les. Ils viennent de sortir un dictionnaire à l'Académie française, mais tous les 20 ans, 30 ans, les dictionnaires évoluent. En permanence, des mots entrent, des mots sortent. Les livres de grammaire aussi, il y a des façons d'écrire les verbes conjugués qui changent. Mais quand même, globalement, c'est assez stable. C'est-à-dire, si on lit un livre des années du 19e siècle, on comprend. À propos de la dimension sociale, chaque groupe social développe des pratiques qui lui sont propres. Alors, j'aime bien parce qu'à ce moment-là, je donne toujours un exemple du moment et je me suis dit qu'il y avait deux choses que j'associe à ça quand je suis rentré dans cette pièce. C'est, il y a des, j'ai jamais vu ça, des trucs là, comment ça s'appelle? Les multiprises posées sur chaque table. Il y a 5 ans, vous seriez entré dans une pièce où il y aurait ça, vous vous seriez dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, c'est tout à fait naturel. Tout le monde se dit, ah, super, il y a. D'accord? Donc ça rentre dans nos pratiques sociales d'un groupe. On serait à une autre époque ou dans un autre lieu, ce serait peut-être saugrenu ou bien dans les usages depuis longtemps, ou des choses comme ça. L'autre chose que je me suis dit, c'est qu'on serait dans une formation, je ne sais pas moi, avec des banquiers, peut-être j'ai des a priori, mais. Eh ben, je pense que la parité serait pas la même dans cette pièce. Et du coup, bon, ça, tout, pourtant, je pense que ça ne vous a pas forcément choqué ou interloqué ou etc. Donc tout ça, c'est des usages d'un groupe social. Donc là, on parle d'un groupe social, de l'enseignement, de la formation. Voilà, il y a des choses qui sont habituelles dans notre groupe social. Et parmi ces choses, il y a les pratiques langagières, c'est-à-dire on a des pratiques sociales et on a des pratiques langagières socialement, c'est-à-dire que dans un groupe social, on développe des usages de la langue qui sont propres à ce groupe social. Et donc Robière, toujours, parle de pratiques langagières disciplinaires pour dire que bah, une discipline, c'est aussi un groupe social de chercheurs, puis d'enseignants, puis d'élèves, de gens qui travaillent cette discipline, et qu'on a des façons d'utiliser la langue spécifique dans chaque discipline. J'ai juste souligné les deux idées principales. C'est que le langage est constitutif de la pensée. Ça, c'est principal parce que c'est vraiment ce qui structure ma façon de penser les choses. C'est-à-dire que pour moi, travailler sur la langue, c'est travailler sur la conceptualisation, par exemple. Et puis, la dimension sociale et la dimension individuelle, on va y revenir. C'est-à-dire, bah, quand je dis travailler sur la langue, c'est travailler sur la conceptualisation. Je suis plutôt sur le psychocognitif, l'individu. Mais si je dis travailler sur la langue, bah, en général, c'est plutôt social, par exemple. D'accord? On n'arrête pas de croiser ces deux dimensions, et donc elles sont constitutives de notre travail disciplinaire, en plus du fait que nos usages de la langue sont spécifiques. Je fais ma petite digression. C'est parce que Robière, elle parle de. En fait, elle ne dit pas penser et langage sont indissociables. Elle dit agir, parler, penser. Bon, ou bien penser, langage, elle dirait aussi, mais elle ajoute toujours action. Donc ça, c'est une première idée. Et quand on a préparé, on s'était dit, tiens, ça ressemble à manipuler, verbaliser, abstraire, quelque part, d'une certaine façon. Et puis, ça faisait penser aussi à action, formulation, validation de Brousseau. Donc, bon, j'ai mis quelques éléments, j'ai été regarder un petit peu ce que dit Brousseau, ce que dit Robière. Personne dit manipuler, verbaliser, abstraire, sauf récemment l'institution. Donc du coup, les gens réfléchissent comme vous l'avez fait hier, de toute façon tout à fait intéressante. Voilà, pour manipuler, verbaliser, abstraire, j'ai été voir un magistère qui s'appelle sur Canopé, qui s'appelle Manipuler, verbaliser, abstraire. Et ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'est que en fait, il parle de le fait qu'il faut faire manipuler les élèves. Je crois, et même on en a reparlé ce matin, que vous l'avez vu de façon plus large. Manipuler, c'est vraiment utiliser les mains, là, dans cette acception-là. Et l'idée, c'est qu'il faut que les élèves prennent de la distance. Et prendre la distance, c'est faire des hypothèses, valider, contrôler, etc. Et du coup, on retrouve dans cette abstraction, c'est vraiment très très proche de action, formulation, validation. Sauf que pour Guy Brousseau, c'est important que la situation crée, c'est une situation d'action, une situation de formulation, une situation de validation. C'est-à-dire l'élève est face à une situation et va se retrouver pour résoudre le problème à agir, formuler ou valider les hypothèses qu'il a faites, alors que dans manipuler, verbaliser, abstraire, j'ai l'impression, comme ça, en ayant juste regardé un MOOC vite fait, que l'enseignant est beaucoup plus présent, actif. C'est-à-dire, c'est dit explicitement que l'enseignant, par exemple, peut évoquer explicitement le savoir visé ou des choses comme ça. Et aussi, une autre différence, c'est que Brousseau, il prévoit un moment d'institutionnalisation, c'est-à-dire un moment où l'enseignant dit le savoir, alors que je ne l'ai pas vu dans manipuler, verbaliser, abstraire. On peut analyser les pratiques langagières des mathématiciens et des mathématiciennes, c'est-à-dire on regarde la façon dont ils disent les mathématiques. On peut le regarder dans des traités, des livres de maths, ou dans des livres d'enseignement, par exemple, quand c'est des mathématiciens et des mathématiciennes qui les ont écrits. Et on s'aperçoit que, je pense que c'est valable pour toutes les disciplines, qu'il y a beaucoup d'implicites et que les formulations sont complexes, que c'est un usage de la langue qui n'est pas évident. Alors, en mathématiques, on pourrait dire que c'est René Coury qui dit toujours ça, qu'en plus, on se complique la vie avec une utilisation des variables qui est un peu spécifique, c'est-à-dire que Non seulement on a des façons de dire les choses spéciales, mais en plus on manipule les lettres. Quelques exemples que je vais commenter. Le premier, c'est Zoé Ménil qui avait mis ça dans sa thèse. C'est deux phrases qui sont intéressantes parce que quand on dit les multiples de 3 et de 4 sont des multiples de 12, on comprend quelque chose. Ouais. Et si je vous dis les multiples de 6 et de 9 sont des multiples de 3, vous comprenez aussi. Les deux phrases sont vraies et vous ne comprenez pas la même chose dans chaque phrase. D'accord? Puisque, en fait, dans la première, on dit que c'est les nombres qui sont à la fois multiples de 3 et de 4 qui sont des multiples de 12. Alors que dans la deuxième, on dit que les multiples de 3 sont, les multiples de 6 sont des multiples de 3 et les multiples de 9 sont des multiples de 3. Donc ça, bon, je pense qu'un matheux, on lui dirait ça, il dit bah oui. Et en fait, on peut dire bah oui, c'est-à-dire que c'est juste un effet d'habitude de concaténation de phrases, c'est-à-dire que ça nous fatigue de dire les multiples de 6 sont des multiples de 3 et les multiples de 9 sont des multiples de 3, donc on dit bah, les multiples de 6 et de 9 sont des multiples de 3. Ça marche tout le temps, puis voilà, là il y a un cas où si on vraiment quelqu'un d'un peu tatillon, on peut voir que bah, des fois ça marche pas, puisque la même phrase peut avoir deux sens différents en fonction. Alors, ça montre des usages. Ça montre aussi qu'on n'est jamais très loin quand on réfléchit à ces formulations des maths. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez bien compris les deux sens des phrases, c'est que vous avez une culture mathématique qui vous permet de comprendre ça. Vous avez des savoirs mathématiques qui vous permettent de lire ces phrases avec un sens mathématique cohérent avec votre savoir. Donc, on est bien en train de faire des maths quand on lit une phrase comme ça. La deuxième, je vais prendre la petite schéma de géométrie. Donc ça, c'était c'était à la journée Maths Monde l'année dernière, que je vous conseille tout à fait, organisée par l'IREMS de Paris. Il s'agit de décortiquer un thème du point de vue d'enseignants de plein de pays différents. Donc là, c'était la collègue qui travaille sur les maths en anglais et en Angleterre, qui montrait un type d'exercice et bon, elle voulait montrer comment on le résolvait en Angleterre. Donc elle l'a d'abord fait résoudre par une collègue française dans la salle au tableau. Et donc ça m'a amusé de voir que elle avait écrit, c'est comme ça qu'on ferait, hein, c'est pas du tout pour critiquer. Elle dit on modélise la feuille A4. Il s'agit de voir si avec une règle de 30-50 cm, on peut tracer la diagonale d'une feuille A4, ce qui est un problème intéressant. Même au primaire, je pense. C'est-à-dire sans Pythagore. Elle dit, on modélise la feuille A4 par un rectangle ABCD. Comme c'est un rectangle, le triangle est rectangle en D, et etc., etc. Et puis après, elle calcule. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du mot rectangle qui est trois fois là, en trois lignes. Et en fait, on voit que le rectangle, ça peut être un nom, comme quand on dit c'est un rectangle, c'est un nom ça. Et ça peut être aussi un adjectif, le triangle est rectangle. Et du coup, il n'a pas du tout le même sens. Le rectangle, c'est donc soit un type de quadrilatère particulier, soit une propriété d'un triangle. D'accord? Pareil, si je vous dis la feuille est rectangle, donc le triangle est rectangle, vous allez tout à fait décoder et comprendre, mais on pourrait, comme pour les deux premières phrases, hein, on pourrait très bien croiser un élève qui, lui, ne comprend pas du tout ce qu'on est en train de dire. Comment un triangle peut-il être rectangle, puisqu'un rectangle, ça a quatre angles, par exemple? Voilà, le dernier petit bout, c'est en bas à droite. C'est trois phrases qui se ressemblent. Bon, la première ressemble pas tout à fait aux autres. C'est si ABCD est un carré, alors c'est un rectangle. Et puis les deux autres, ABCD est un carré, donc c'est un rectangle. ABCD est un rectangle, mais c'est un carré. J'ai été obligé d'inverser parce que sinon ça marchait pas. Voilà, c'est des formulations. Alors, la différence entre les deux premières, ça je peux souligner, n'est pas claire même pour un matheux. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des maths, c'est pas du tout évident qu'on ne dit pas la même chose dans les deux phrases. Alors, sauf s'il est logicien, où là, c'est ce qu'il étudie en fait, le logicien, c'est ce qu'on est en train d'écrire quand on dit ça. En fait, si ABCD est un carré, alors c'est un rectangle, c'est une propriété générale des quadrilatères. Il manque une quantification qu'on ne dit jamais au début, c'est quels que soient les points ABCD, si ABCD est un carré, alors c'est un rectangle. C'est une propriété générale des quadrilatères. Quand je dis ça, je dis absolument rien sur ABCD. D'ailleurs, je pourrais dire quels que soient les points EFGH. Si EFGH est un carré, alors c'est un rectangle. C'est exactement la même propriété, indiscernable. C'est-à-dire ABCD n'existe même pas dans cette phrase. Par contre, quand je dis ABCD est un carré, donc c'est un rectangle, ou bien ABCD est un rectangle, mais c'est un carré, je donne trois informations. ABCD est un carré. J'ai quatre points ABCD, c'est un carré, je vous le dis. ABCD est un carré. ABCD est un rectangle, je vous le dis aussi, dans les deux cas. Et puis après, le mot que je mets entre les deux va introduire une petite nuance personnelle. C'est-à-dire que dans la première phrase, le si ABCD, je donne une propriété mathématique, alors que dans les deux autres, je donne un point de vue qui est je vous dis, donc déjà il y a un acteur, c'est je, alors que pas dans la première. Je vous dis que ABCD est un carré, est un rectangle, et j'ai toutes les raisons de croire que si c'est un rectangle, ce n'est pas sans lien avec le fait que c'est un carré. D'accord? J'ai les moyens de vous montrer que si je pense que c'est un rectangle, ça vient du fait, ça peut être vu comme une conséquence du fait que c'est un carré. D'accord? Dans la troisième phrase, je dis la même chose, sauf que l'espèce de point de vue que j'apporte, c'est que c'est un rectangle. Mais ça veut dire que ça entre un peu en opposition. C'est-à-dire qu'on peut penser que tous les rectangles ne sont pas des carrés, par exemple, quand on lit cette phrase. D'accord? Bon, tout ça, c'est des petites subtilités. Pareil, hein, si vous demandez à quelqu'un qui fait des maths que veut dire ce mais, il va être un petit peu gêné, parce que c'est pas tout à fait de la logique, c'est pas tout à fait des maths, c'est une façon de rédiger où on met un petit mot pour introduire une nuance dans la formulation par rapport à des propriétés qu'on énonce. Donc c'est tout ça qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les pratiques langagières des mathématiciens, mathématiciennes. Je souligne que dans ces pratiques langagières, en tout cas dans ces exemples, il n'y a pas que des questions de lexique, c'est-à-dire on pourrait classer l'exemple sur rectangle dans lexique. Mais le reste, c'est vraiment des formulations de façon de dire des phrases. Donc, celui du haut, on pourrait dire que c'est l'utilisation du mot et, puis celui du bas, l'utilisation du mot donc, mais, si alors. Mais bon, c'est vraiment des formulations, des façons de dire les idées, et pas seulement du lexique. Il y a bien sûr une entrée lexicale. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces complexités qu'on. Donc, je dis complexité parce que tout ce que je reviens, tout ce que j'ai écrit là, c'est pas très expliqué. Je l'ai dit, hein, même pour quelqu'un qui est à l'aise en maths, c'est pas très clair, c'est pas très conscient. C'est-à-dire qu'on utilise tout ça sans faire attention, en fait. On peut pas sans arrêt se demander quel est le sens du mot que j'utilise, comment la personne en face va l'entendre, etc. Donc voilà, les choses, elles sortent comme elles sortent, parce qu'on a complètement intégré des façons de dire les choses, là, en l'occurrence, pendant nos études, et puis en lisant des manuels pour quelqu'un qui a fait ses études depuis longtemps, ou en parlant, tout ça, c'est des choses qu'on intègre et qui deviennent complètement, je crois que tout à l'heure, tu as dit routinière ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une culture des usages sociaux. Du coup, c'est complexe, puisque il y a quelque chose qui est plein d'implicites et que sur lequel on aurait du mal à mettre l'accent, puisqu'on nous-mêmes on n'est pas forcément attentif à ça. Et l'autre chose dont on s'aperçoit, c'est que cette complexité se transfère assez, quand on regarde des exemples, donc là en plus j'ai pris des exemples tout à fait scolarisables ou introuvables dans des manuels, on va dire. même si il y en a certains qui ont été écrits pour l'occasion. Mais ça se transfère en classe. J'avais fait quelque chose sur l'expression s'écrire sous la forme avec. C'est quelque chose qu'on utilise souvent en maths. Et on avait vu que en sixième, on avait plein d'usages de cette expression, alors qu'elle est complexe. C'est-à-dire que c'est mathématiquement et logiquement assez compliqué de décortiquer ce que ça veut dire. Donc ça arrive en classe et rapidement. Et les élèves sont confrontés. Enfin, pour les élèves, on leur présente des notions sans mettre le focus sur la façon dont on parle de ces notions. D'accord? Et du coup, ils sont confrontés à cette complexité. Alors, quelquefois, quand même, l'enseignant dit, attention, le mot rectangle, ça peut être un nom ou un adjectif, je ne sais pas comment il le dit, mais il peut souligner qu'il y a deux sens. Ou le mot hauteur, vous avez vu, ça peut être une longueur, un segment, une droite. Ça peut être fait, mais il ne peut pas le faire pour tout. Donc, c'est une complexité pour les élèves. Et ce qu'on constate là aussi, je ne vais pas non plus entrer dans des détails, c'est que c'est une difficulté. Ça pourrait être complexe et puis bien se passer, hein. Par exemple, c'est compliqué de conduire, mais à peu près tout le monde arrive à conduire à la fin. Donc c'est compliqué, et alors ça, on peut le voir. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, quand on dit si, alors, il y a toujours une quantification devant, c'est-à-dire si je vous dis si un nombre est pair, alors il est divisible par 2, en fait, je dis quel que soit le nombre, c'est ça qui est jamais dit, quel que soit le nombre, s'il est pair, alors il est divisible par 2. D'accord? Et ben, cet implicite-là, juste le fait que devant un si, alors, il y a toujours un quel que soit. On l'a testé avec des élèves de première plutôt scientifiques, en leur donnant des exemples où on ne mettait pas la quantification comme on fait d'habitude, et puis en leur demandant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Puis bien sûr, les exemples étaient choisis pour que s'ils n'ont pas bien conscience de cette quantification, c'est pas si simple de répondre. Et après, on les faisait débattre, puisque ce qui était bien, c'était fait pour, c'est que. Il y a des phrases où la moitié des élèves disaient que c'était vrai, l'autre moitié des élèves disaient que c'était faux. C'était des phrases complètement mathématiques, hein, des équations, on proposait une solution, est-ce que c'est une solution ou pas? Vrai, faux. Donc moitié vrai, moitié faux. Donc ça, c'est du pain béni, on leur dit, allez-y, décidez. Et ça, donc il y avait, je sais plus, 12 exemples, et on fait discuter les élèves, et ça prend une demi-heure à ce. C'est très intéressant la discussion et ça prend une demi-heure à ce qu'ils arrivent à dire. En fait, en mathématiques, une phrase est fausse quand il y a un exemple faux. Si c'est faux une fois, c'est faux. Et c'est ça exactement qui est sous-jacent à cet implicite. Et du coup, on voit bien, alors que c'est des élèves scientifiques au lycée, c'est pas du tout intégré. C'est-à-dire que c'est des choses qui. C'est ce qui est assez normal. C'est. La première fois qu'on entend parler qu'on entend une expression, on l'entend avec le sens des mots. J'aurais dû noter, ce week-end, il y avait un article du Monde où c'était des expressions en allemand du genre Ah là là, pour venir ici, j'ai nagé dans les pattes ou quelque chose comme ça. C'était pas tout à fait ça, mais il y avait vraiment une expression comme ça. Puis l'article, c'était dire Alors d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Il a nagé dans les pattes, quoi. Et donc on imagine quelqu'un qui. Donc on se demande qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Mais voilà, quand on entend la première fois c'est un rectangle, donc le triangle est rectangle, et ben peut-être qu'on ne décode pas très bien tout à fait. Si on vient d'apprendre les triangles rectangles, on ne décode pas très bien qu'en fait on parle de deux choses différentes. C'est ce qui se passe. En tout cas, c'est rarement mis en défaut, cette chose-là. C'est-à-dire que. Une complexité est souvent une difficulté. J'ai mis aux élèves, c'est au moins à certains élèves. Oui, et là, ce que j'ajoute en bas, c'est que là, j'ai parlé des usages de la langue en mathématiques, mais on pourrait aussi parler des usages de la langue dans l'enseignement. y compris dans l'enseignement des mathématiques. Et là, je pense à des choses comme une étudiante qui avait travaillé sur les mots pour demander aux élèves de, on va dire, justifier, juste parce qu'il faut bien dire un mot. Et en fait, on dit justifier, prouver, démontrer, expliquer. Quand vous regardez des manuels de 6e, 5e, sachant que quand on interviewe des élèves, les profs, pardon, quand on interviewe des élèves, c'est à peu près, c'est-à-dire, on met l'un, un mot ou l'autre, ils font à peu près la même chose. Quand on demande à des enseignants, souvent, ils demandent des choses différentes quand ils utilisent tel mot ou tel mot. Et souvent, là, il y a une grosse distinction, c'est est-ce que je demande une démonstration formelle, on va dire, même si c'est en sixième, c'est jamais formel, mais quelque chose de l'ordre de la justification mathématique, ou juste une explication avec une allusion à une propriété de façon plus informelle. Et donc, les enseignants, ils ont bien conscience de cette différence d'exigence possible, mais chacun utilise un mot. C'est-à-dire les mots, c'est réparti un peu aléatoirement d'un enseignant à l'autre. C'est-à-dire quelquefois c'est démontrer qui veut dire, bon, souvent démontrer veut dire quand même le côté formel, mais par exemple, il y a des enseignants qui disent, moi quand je dis à un élève expliquer, il sait que ce que je veux, c'est un argument formel, mathématique. Puis d'autres, quand ils disent, quand c'est expliquer, ben, ils savent que ce que je veux, c'est qu'ils me disent un truc un peu bricolé ou que je comprenne qu'ils ont vu un peu le lien avec le cours, par exemple. Et donc c'est ça que je veux dire quand je dis les usages liés aux mathématiques peuvent s'ajouter des usages liés à l'enseignement, c'est quelquefois en plus il y a une espèce de surcouche d'habitude de dire les choses quand on enseigne les mathématiques. Là aussi, il ne faut pas du tout voir des jugements dans... Moi, je suis vraiment baigné dans la double approche. Faut pas du tout voir des jugements dans ce que je dis. C'est-à-dire, si on fait comme ça, c'est bien que on est contraint. Alors après, on peut réfléchir à nos contraintes et essayer de travailler dessus. Mais voilà, dans un premier temps, quelqu'un dit les choses comme ça, c'est que c'est comme ça qu'il devait les dire à ce moment-là. Si on lui dit que quand même ça a des effets très négatifs sur ses élèves et qu'il continue à faire pareil, là, on peut commencer à critiquer. Mais dans un premier temps, en tout cas, c'est un constat. Quand j'en étais arrivé là dans ma réflexion, je me suis dit, bah, comment font les profs de français pour, c'est-à-dire, on a des pratiques de la langue, on a des élèves qui doivent, c'est pas forcément qu'ils doivent apprendre à utiliser la langue comme le font les matheux, mais en tout cas, ils doivent à un moment s'approprier des usages, soit pour comprendre ce qu'on leur dit, soit pour le produire. Comment font les profs de français pour faire ça, puisque finalement c'est un peu leur métier. Alors, je parle pas du CP, c'est-à-dire quand on apprend à écrire les mots ou à lire, à décoder, c'est pas ça. Mais donc j'ai mis parce que c'est pas lecture-écriture, c'est pas lecture, c'est compréhension de texte, c'est pas écriture, c'est écriture de texte, rédaction. Comment on fait entrer les élèves dans cette démarche-là? Ce qui est intéressant, c'est que de façon assez générale, donc ça c'est moi qui fais cette synthèse-là, mais le fait que les deux activités, compréhension-écriture, sont complètement indissociables, c'est un peu comme penser-parler, la même indissociabilité, mais ça n'a rien à voir sinon. C'est-à-dire qu'on apprend à lire en apprenant à écrire et on apprend à écrire en apprenant à lire. D'accord? Et que ce lien se fait beaucoup par ce qui est en bas, c'est-à-dire du travail collectif, réflexif et annoncé comme tel. Ça, c'est un peu ce que disent les didacticiens du français, à ma sauce, bon, avec mes mots, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, pour apprendre comment on comprend un texte, c'est très très important de comprendre comment les autres comprennent le texte. C'est ça, par exemple, la dimension collective. C'est-à-dire que on a un texte de 5 lignes et ça peut être. Bon, si vous allez voir, il y a un manuel qui s'appelle Lector Lectrix que je vous conseille, qui est forcément dans vos CDI, sinon il faut l'acheter. Ça s'appelle manuel d'apprentissage de la compréhension de texte. Donc c'est tout un protocole d'apprentissage de la compréhension de texte. Ça existe au primaire, au collège. Et donc ils travaillent sur des petites nouvelles de 3 lignes. Et puis donc il y a des petites activités autour pour apprendre aux élèves à comprendre. Et surtout à comprendre comment on comprend et comment ils comprennent. Et du coup, ils font lire les textes et puis chaque élève dit ce qu'il a compris. Et en fait, on voit qu'ils n'ont pas compris la même chose et c'est ça qui est intéressant de voir. Et par contre, dans ce qu'ils ont compris, il y a des points communs et d'essayer de voir dans ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qui est dans le texte, qu'est-ce qu'ils ont interprété, comment. Et est-ce que c'est normal que sur deux choses différentes, sur deux choses, il y ait deux lectures différentes? Est-ce que c'était prévisible dans le texte ou pas? Des choses comme ça. Bon, réflexif, et ça c'est inclus dans ce que je viens de dire, et annoncé comme tel, c'est pour dire que c'est important qu'à un moment, on dise aux élèves, maintenant, on va travailler sur comment on comprend. Donc, ça, tout ça, pour moi, ça interroge beaucoup la façon dont on travaille en maths. C'est-à-dire, par exemple, le lien lecture-écriture, on demande aux élèves à écrire, d'écrire, est-ce qu'on leur fait travailler sur comment on lit un texte de maths? Même, je dis comme ça exprès, c'est-à-dire... un énoncé de 3 lignes ou comment on lit si je vous dis un carré est un rectangle, je ne me trompe pas de sens, je crois. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui un? Est-ce que c'est un, tous, celui-là, etc., etc. Donc ça, un carré est un rectangle, on peut demander à des élèves comment ils l'entendent, comment ils comprennent et leur faire comparer. C'est déjà une lecture de texte en fait. D'accord? Donc c'est pas forcément un texte comme ça. Je vais vous montrer un exemple d'activité que moi je trouve être un exemple d'activité collective réflexif et annoncé comme un travail sur la formulation.
Donc si on veut calculer moins 5 plus moins 12 moins 7 moins plus 20 plus 2.
Dans la vidéo que vous avez vue, l'enseignante, elle dit, alors elle ne le dit pas comme je vais le dire, mais elle dit moins 5 plus moins 12 moins moins 7 moins plus 20 plus 2. En fait, elle dit moins 5 plus moins 12, moins, moins 7, quelque chose comme ça. Bon, il y a une espèce de ponctuation, oui, voilà. Et l'idée, c'est de dire oralement cette expression arithmétique-là. Je vous proposerai une alternative à la fin. Et alors, mon objectif n'était pas du tout de trouver en 5 minutes, 4 minutes, une formulation idéale, mais de montrer quelque chose qui était que cette diapo-là, d'habitude, je l'écris plutôt comme ça. C'est-à-dire que ce que disent les didacticiens du français, c'est que non seulement c'est bien pour travailler la compréhension et l'écriture de texte, d'avoir un travail collectif réflexif et clairement annoncé comme tel. Mais en fait, c'est bien pour ça et pour travailler le contenu. C'est-à-dire que là, si vous, comme ça n'a pas duré longtemps, vous pouvez faire hop, un petit flashback et repasser la bande de votre discussion sur, donc là, ce qu'on a débriefé, c'est plutôt sur le premier exercice. En fait, vous avez parlé de mathématiques et puis vous avez peut-être explicité, bah, peut-être quelque chose qui était passé inaperçu dans la vidéo, c'est que bah, quand on dit plus, plus, moins, moins 4, plus 7, etc., en fait, il y a effectivement quelque chose qui n'est pas dit, c'est que tous ces signes ne représentent pas tous la même chose. Donc voilà, il faut s'en rendre compte, il faut du coup, il faut détricoter de qu'est-ce qui est un plus addition, de qu'est-ce qui est un plus nombre positif, etc. Donc quand on fait ça, bah, mine de rien, on fait un travail mathématique qui en plus n'est pas sans lien avec l'exercice qu'elle leur demande de faire. Et voilà, donc c'est l'idée que bah, mener ce travail permet un travail disciplinaire et J'ai pas, pour l'instant, j'en suis au mot matérialisation, mais le fait de prendre la langue comme un matériau, c'est ça l'idée. Prendre la langue comme un matériau, c'est un exercice qui est vraiment intéressant pour la langue, mais quelque part je fais ça parce que quelque part peut-être ça intéresserait plus le cours de français, mais je pense, moi je le pense pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vraiment une activité intéressante pour l'apprentissage des mathématiques. C'est-à-dire que si on regarde les formulations que je disais tout à l'heure, c'est intéressant de faire ça pour apprendre les mathématiques. Alors, et là, on l'a fait, je vous l'ai fait faire à vous, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant avec les élèves de faire un travail collectif, réflexif et annoncé comme tel. C'est-à-dire de dire à certains moments dans le cours, bah maintenant, aujourd'hui, on va à nouveau regarder comment on formule les mathématiques. D'accord? Et de faire un travail là-dessus avec les élèves, de voir comment ils comprennent les mots, de partager leur compréhension des mots, de comparer. Est-ce que tout le monde comprend les mots de la même façon? Voilà, et c'est quelque chose d'assez riche. Alors, je vous donne un exemple. En quatrième, c'est le théorème de Pythagore. Les élèves ont manipulé avant, c'est-à-dire avec un logiciel de géométrie, ils ont analysé des triangles rectangles, calculé des longueurs, calculé des carrés de longueur, et puis ils se sont rendu compte au bout d'un moment que le carré de la longueur de l'hypoténuse, ça avait quand même un petit lien avec le carré des deux autres longueurs. On leur demande, on leur dit bon, bah maintenant, il faut faire le cours, quoi. Donc, rédiger la propriété qu'on va mettre dans le cours. Donc, ils proposent des choses. Ensuite, il y a, je crois, un travail en groupe où. Non, là, ça ne devait pas être ça, mais c'est possible de le faire en groupe. Là, puisqu'on a le tableau comme ça, c'est que ça a été fait en plénière. C'est-à-dire, on discute sur les formulations proposées par les élèves. Et puis, donc, il y a une discussion qui donne quelque chose comme ça. Où au début, la première formulation qui sort ou que les élèves choisissent dans la liste, c'est dans un triangle rectangle, les côtés perpendiculaires au carré sont égaux à l'hypoténuse au carré. D'accord? Alors c'est compliqué parce que quand on trace un triangle rectangle, il y a un carré. Le petit rectangle, il est carré. Donc, mais c'est pas celui-là dont on parle. C'est bien, en fait, c'est les côtés perpendiculaires, donc c'est les deux côtés de l'angle droit au carré. C'est les côtés qui sont au carré. C'est pas perpendiculaire au carré, sont égaux à l'hypoténuse au carré. Donc les élèves, ça, les élèves, ils sont impitoyables. Hein. Ils disent non, mais tu dis n'importe quoi, on ne comprend pas. Parce que effectivement, l'élève qui dit ça, lui, il est très clair dans sa tête, mais ceux qui écoutent, ils ne comprennent pas. Donc petit à petit, soit pas à l'initiative de l'enseignant, c'est pas du tout à didactique, hein, c'est soit à l'initiative de l'enseignant qui pose une question, soit avec une remarque d'un élève qui dit. C'est pas possible de dire comme ça, je comprends pas. On trouve, au lieu de dire les côtés au carré, on dit la somme des côtés, par exemple, et puis la somme des côtés de l'angle droit, etc. On va même jusqu'à, je crois, la somme des mesures des côtés. Oui, c'est ce qui est en bleu. Voilà, la somme des carrés des longueurs. Donc ça fait une phrase tout à fait correcte mathématiquement et tout à fait difficile à comprendre comme les phrases correctes mathématiquement. Donc on arrive à cette phrase bleue, qu'il est décidé de la noter dans le cours, et l'enseignante dit quelque chose du type est-ce que ça vous plaît? Et puis les élèves disent bah c'est long, puis il y en a un autre qui dit il n'y a pas si alors, donc il a bien repéré que c'était quand même un usage de dire si alors dans un théorème en maths, et hop c'est reparti, donc ils essayent, pour le raccourcir, ils essayent de faire une figure, c'est la deuxième formulation, et puis ils finissent aussi par trouver un si alors. Ça dure 40 minutes, je crois, c'est assez long pour un enseignant dans sa séquence. N'empêche qu'à la fin, on peut penser que les élèves, alors au moins ceux qui ont participé, mais c'était assez bruyant, donc on peut penser qu'ils ont participé, ont travaillé quand même le Pythagore. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut pas, il y aura moins d'exos d'application directe du cours ensuite. Bon, ça, c'est une hypothèse. Alors, le exemple de. Donc, ça, c'était, pardon, c'est un exemple d'activité qu'on a fait et que moi, je rentre dans le. Je reviens en arrière encore. Dans la case collectif, réflexif, clairement annoncé comme tel. Ça, on l'a fait sur beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est l'énoncé d'un théorème. Là, je vous ai dit, c'était plutôt classe entière, débat en classe entière, mais on peut l'imaginer, par exemple, sur une définition. Je me rappelle d'une séquence sur la d'une séance sur la médiatrice. Donc, on fait tracer aux élèves des médiatrices De mémoire, c'était en sixième, c'était aussi sur ordinateur en GeoGebra. Vous demandez à l'élève d'utiliser la fonction médiatrice. Il sait pas, peut-être qu'il sait, mais il sait pas clairement ce que c'est. Il trace, puis après, vous faites essayer de deviner les propriétés en faisant bouger les points. La médiatrice, elle bouge, mais elle garde ses propriétés. Et du coup, les élèves, ils finissent par dire que ah oui, ça a l'air de rester toujours perpendiculaire, de toujours passer au milieu. Et c'est une chose de dire ça. Et pareil, on leur dit bon, bah maintenant, il faut écrire quelque chose dans le cours. Proposer des définitions de la médiatrice. Ils font des listes, bon, c'est exactement pareil. Alors, on peut le faire en classe entière comme là, mais on peut aussi leur dire individuellement, vous proposez une définition, puis après, vous vous mettez en groupe de quatre et vous choisissez une définition qui vous convient à tous les quatre. Et puis ensuite, il y a une phase collective. Bon, il y a plein de petits protocoles différents, chacun adapte, mais l'idée est toujours la même, c'est d'avancer collectivement dans un travail sur la formulation d'une propriété. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, la propriété soit effectivement dans le cours. C'est-à-dire, c'est vraiment le cours que les élèves sont en train de faire. C'est-à-dire, ils ont la responsabilité d'écrire le cours. C'est pas pour rigoler qu'ils font cet exercice. Donc ça, c'est les activités. Quand je dis 11, là, c'est le groupe qui s'appelle Léo, l'IREM de Paris. C'est les activités qu'on a appelées formuler, reformuler. En mettant pas mal de choses dessus, dedans, pardon. J'ai parlé de définition et de propriété, mais je peux parler aussi de démonstration. On peut faire la même chose avec une démonstration, la même chose que ce que je viens de dire. Mais là, lecture travaillée de démonstration, c'est autre chose. C'est l'idée que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les didacticiens du français disent que c'est bien de travailler l'écriture en même temps que la lecture, donc c'est pas que c'est bien, c'est que c'est deux compétences qui se travaillent de façon dialectique, on va dire. Et ben en maths, ça peut être intéressant de prendre des textes de démonstration et de les travailler comme un texte à comprendre. C'est-à-dire, bah voilà, après, là, je mets une ligne lecture travaillée de démonstration. On peut mettre en place des outils pour les profs pour qu'ils travaillent des textes de démonstration. Au primaire, il n'y a pas de texte de démonstration, mais je pense qu'il est possible de trouver des textes qui parlent de mathématiques et de les travailler de la même façon. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas trop. Ben, si on le fait sur la démonstration, c'est intéressant. D'aller vers qu'est-ce que c'est qu'une démonstration, qu'est-ce que c'est qu'un pas de déduction, qu'est-ce que c'est qu'une preuve en mathématiques, tout ça va sortir dans la discussion, mais avec un texte de trois lignes, je redis, hein, c'est pas forcément des choses grosses, même au début, il faut pas que ce soit gros, on peut travailler du contenu mathématique qui est évoqué dans le texte. Donc c'est là, programme de construction, restauration de figure, figure téléphonée, programme de construction. C'est des activités que vous connaissez, qu'on peut entrer dans cette catégorie de séances, on va dire, quitte à peut-être les modifier. Mais par exemple, quand on fait des programmes de construction ou des figures téléphonées, il peut y avoir, quelquefois c'est individuel, mais vous pouvez imaginer que tout le monde travaille sur la même figure et qu'après il y ait un débriefing collectif, ou bien que. Que les élèves se passent une figure, quelqu'un fait un programme de construction, l'autre fait la figure, puis lui fait un programme de construction de la figure qu'il vient de faire, et puis au bout de trois ou quatre élèves, ça ne faut pas trop, parce que sinon, il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ça diverge. Et puis on compare, et puis après les élèves sont chargés ensemble de se mettre d'accord sur un programme de construction. Les trois, quatre qui viennent de faire l'expérience en boucle, ils ont la charge de formuler un programme de construction, et on peut imaginer pareil un débriefing collectif. De finalement, qu'est-ce qui serait un programme de construction efficace sur ça? Dictée, je ne vais pas tout détailler comme ça, donc je vais en prendre quelques-uns. Dictée, je le mets, ça peut être intéressant. Par exemple, pour l'exercice qu'on vient de faire, c'est-à-dire, ça peut être l'enseignant qui dicte un calcul. Alors, il peut dicter. Bah, il peut dicter plus plus 2, moins moins 3, non, ça commence pas comme ça, plus 2, moins moins 3, plus moins 7, et puis après dire comment j'aurais pu faire pour le dire un peu mieux, ou des choses comme ça. Ou à l'inverse, dire écrire un tableau et demander aux élèves comment vous le dicteriez. Le but étant de réfléchir sur la formulation. ben, d'avoir un travail, de faire un pas de côté après. Nous, on avait fait ça en géométrie pour les notations avec des phrases du genre tracer A le milieu de BC, par exemple, à l'oral. Du coup, on n'a pas, il n'y a pas les crochets de BC pour le segment. Et du coup, les élèves, ils comprennent, ils comprennent pas. Bon, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté parce que le milieu, ça ne va pas être une droite, mais on peut imaginer des phrases où il y a des ambiguïtés. Ça peut être intéressant, je ne vais pas développer, mais on pourrait en parler longtemps, d'aller voir comment les gens disent dans d'autres langues. Je vous ai parlé de la journée MathMonde tout à l'heure. Et là, alors, j'ai un peu cherché dans l'équipe du groupe MathMonde, je leur ai demandé comment ils disaient plus plus moins 2, etc. Il y a, alors, en anglais, visiblement, il y a des façons de dire. Nous aussi, on a des façons de dire, vous avez dit additionner, soustraire, etc. Mais ce n'est pas évident sur ce type de calcul. En anglais, visiblement, il y a deux mots, mais les deux responsables hésitaient sur leur effet. Est-ce que c'est vraiment utilisé ou est-ce qu'on dit plus-minus comme nous? Il y a une langue où c'est très clair, c'est la langue des signes. J'ai essayé hier soir, mais je ne vous ferai pas de démonstration. Je vous ai mis juste les signes. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est deux mots différents pour dire négatif, positif. C'est-à-dire négatif, on montre vraiment ça c'est négatif et ça c'est positif. D'accord? On montre le signe du nombre, alors que additionner, soustraire, même quand on dit 2 plus 2, c'est 2 plus 2, ça ferait 2 plus 2. D'accord? Et 2 moins 2, c'est 2 moins 2. Et du coup, et c'est pas du tout 2 moins 2. Du coup, ils ont vraiment deux signes différents. Et avec une facilité un peu que permet la langue des signes, et ça, c'est vraiment intéressant, c'est ça qui est intéressant dans les langues, c'est que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait un exemple avec additionner, un exemple avec tu additionnes. En fait, on ne conjugue pas les verbes en langue des signes. Donc, c'est un peu les deux à la fois. Quand on dit 2 moins 2, c'est 2, tu enlèves 2. Ou 2, 2, tu enlèves 2. D'accord? C'est les deux à la fois. Donc, il n'y a pas. Nous, c'est un peu embêtant quand on commence à dire moins 5 auquel tu ajoutes moins 2, auquel tu soustrais moins 7. Ça fait un truc un peu bizarre. Et puis, si on dit moins 5 additionné à moins 12, ah ben non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose de l'ordre de nos structures grammaticales qui fait que ça ne colle pas bien. En langue des signes, ça, c'est très simple. Parce que les verbes sont juste des actions qu'on ne conjugue pas. Si on veut conjuguer, on fait des signes pour dire que c'était avant, que c'était après, mais pas, il n'y a pas j'enlève, tu enlèves, il enlève, j'enlevais, tout ça n'existe pas, c'est enlever. Vous pouvez prendre cette photo, la photo de cette diapo, et cet après-midi, quelqu'un nous fait la démonstration de dire moins 5 plus. Emeline LSF, c'est une chaîne YouTube où je trouve que sa vidéo sur la façon de compter. Je vous conseille d'aller voir la numération en langue des signes, c'est vraiment un truc. Et faites-le. Entraînez-vous à dire 63, 72, etc. Vous verrez qu'il y a un truc sur la base, parce qu'il y a les doigts. Donc c'est base 5. Il y a beaucoup de base 5, en fait. Bon, je ne vous le fais pas, c'est trop long. Mais c'est intéressant de voir à quel point la base 5 transforme notre façon de voir les nombres quand on le fait comme ça. Ça, c'est Emeline LSF. Sigmat, c'est l'IREM de Toulouse qui a un groupe qui est assez incroyable de création de lexique. En fait, pendant 100 ans, la langue des signes a été interdite en France. Du coup, bah, pendant 100 ans, les mathématiques se sont développées sans langue des signes. Et donc là, il y a un groupe qui essaye de recréer du lexique à partir. Bah, c'est des gens, des linguistes de LSF, des matheux, etc., en essayant de créer du lexique cohérent. Et Mathemasync, c'est une autre chaîne YouTube de l'IREM de Paris où il essaye de faire des vidéos de cours de maths en langue des signes, des petites vidéos de 3 minutes, un peu genre Christian Monca, mais en langue des signes. Voilà. N'oubliez pas l'exercice pour cet après-midi.